Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Il y a beaucoup de sujets où on a des méconnaissances. Et puis, il y a des sujets sur lesquels on a des idées préconçues. C'est souvent les mêmes, d'ailleurs. Et le continent africain en fait largement partie. Le continent africain, c'est un continent qu'on connaît mal. On a du mal à connaître les différences entre les pays. D'ailleurs, on connaît mal le nombre de pays, simplement, qu'il peut y avoir sur le continent africain. Et pour parler de ce sujet, je reçois Odile Gorg, qui est une historienne, qui est une professeure émérite de l'histoire contemporaine africaine. Et on va couvrir, justement, les différences entre les pays, casser un petit peu toutes ces idées préconçues. On va parler de culture, on va parler de démographie, de rapport au genre, d'économie, d'écologie. Et vous verrez qu'en fait, il y a énormément de choses à comprendre sur ce continent, énormément de choses à savoir et qui me semblent, moi, évidemment, passionnantes. Donc, je vous laisse écouter cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour, Odile.
Bonjour.
On va parler ensemble de l'Afrique, mais surtout aujourd'hui des stéréotypes autour de l'Afrique. Je crois que l'un des premiers stéréotypes que l'on fait avec l'Afrique, c'est de considérer le continent et l'ensemble des pays qu'il constitue comme un pays. Et on ne fait pas trop la différence finalement, et on ne sait pas trop la différence d'un pays à un autre. Et on ne le ferait pas pour l'Europe, c'est-à-dire que pour l'Europe, on peut parler d'Europe, mais c'est vrai qu'on sait très bien la différence entre la France, l'Allemagne, la Finlande, le Portugal, enfin, ça n'a rien à voir. Et pourtant, pour l'Afrique, on ne sait pas trop les différences entre les pays.
Oui. Alors effectivement, très souvent, les gens disent l'Afrique. Et comme vous venez de le dire, quand on dit l'Europe, on sait que c'est une construction politique, on sait qu'il y a quelque chose derrière. Alors certains ont bien conscience que l'Afrique, c'est aussi une construction politique, qui est la construction du panafricanisme, donc depuis le milieu du 19e siècle, sous des avatars différents. Mais ensuite, très facilement, les gens vont vous dire les Africains ceci, l'Afrique ceci, sans avoir conscience de la diversité. Et surtout parce que les gens n'aient pas conscience n'est pas un problème en soi, mais sans se donner la volonté, la curiosité de chercher ce qu'il y a de différent.
Mmh. Alors, il y a une différence quand même que les gens font en général, mais d'ailleurs, ils ne les considèrent pas comme africains. Ils vont parler du Maghreb, des Arabes. Mmh. Alors, les Arabes, ce n'est pas que le Maghreb, mais ils vont avoir tendance à parler des Arabes et des Africains. Donc, ils vont différencier en fonction de la couleur de peau, finalement.
Oui, beaucoup. Alors, ça, c'est pour moi, c'est une problématique qui m'a intéressée, sur laquelle j'ai même fait des recherches, c'est-à-dire d'où vient ce concept d'Afrique noire, qui en fait est un concept très français. On ne dit pas Black Africa, ou on le dit de manière très rare. C'est vraiment le résultat de la vision coloniale. Et puisque c'est un concept français, Afrique noire, qu'on est en train d'abandonner au profit d'Afrique subsaharienne, mais ça pose, on le voit tout de suite, un problème de définition, puisqu'on ne voit pas très bien où il y a le début du Sahara, la fin du Sahara. Et donc, c'est vraiment la façon dont la colonisation française, dans ce cas-là, a découpé l'Afrique, a vu l'Afrique. Alors, les Britanniques étaient gênés, je vais dire, par ce concept de « Black Africa », parce que l'Afrique du Sud, le Kenya, sont peuplés, entre autres, de colons européens. Donc, si vous dites « noir », vous excluez ces gens-là. Donc, eux, ils parlaient plutôt d'Afrique tropicale. Mais les Français ont effectivement construit cette idée d'Afrique noire pour la différencier du Maghreb et la différencier non seulement donc dans la gestion politique, puisqu'on sait que c'est pas tout à fait pareil, mais aussi la différencier dans les représentations. Parce que le Maghreb, ça véhicule quand même l'idée qu'il y a eu des États antérieurs importants, qu'il y a une culture, et la notion d'Afrique noire ne véhicule pas la même chose. Et effectivement, lorsque je suis arrivée pour enseigner dans l'université Paris 7, on avait un laboratoire qui s'appelait Afrique noire. Mmh. Et j'ai contribué à changer, à enlever ce nom, parce que c'est le seul continent qu'on appelle continent ou sous-continent, qu'on appelle par une couleur qui n'a absolument, ça n'a aucun sens. Enfin,
Ça n'a aucun sens. Et il y a des différences majeures d'un pays à l'autre. Vous êtes spécialiste de certains des pays d'ailleurs.
Voilà, alors comme tout historien, on a ce qu'on appelle un terrain ou un lieu de recherche. Donc moi, j'ai travaillé sur la Guinée et la Sierra Leone, ce qui déjà m'a donné un atout énorme parce que c'est du comparatisme. Mmh. Et qu'effectivement, si vous allez en Guinée, vous allez trouver, et je caricature un peu, la baguette à la française, pour le pain qui s'est largement répandu à partir de la colonisation. Si vous allez en Sierra Leone, vous avez le pain de mie coupé en triangle. Enfin, vous avez... voilà. Donc déjà là, c'est totalement différent. Mais ensuite, comme j'ai enseigné l'histoire de l'Afrique dans mon université, j'ai été obligée d'enseigner de manière large. On n'a pas de chaire de la Guinée de la Côte d'Ivoire ou même de l'Afrique du Sud, enfin des pays qui représentent vraiment quelque chose d'important. Donc, on enseigne beaucoup plus large. Et moi, j'ai circulé un peu partout, donc j'ai une connaissance assez large, mais j'étais, on va dire, spécialisée Afrique centrale et occidentale, ce qui fait déjà un très gros morceau.
Oui, c'est sûr. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler, par exemple, de différences majeures d'un pays à l'autre? Bon, il y a des différences, je pense au Niger, il y a vraiment des différences très majeures, déjà d'une côte à l'autre, il y a des différences majeures d'un pays à l'autre. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces différences?
Alors, les différences sont énormes, et comme vous le disiez tout au début, entre la Finlande et la Grèce, on voit tout de suite les différences qui sont déjà données par l'écologie, par le milieu, par l'environnement. Mmh. C'est pas le même climat, c'est donc pas la même agriculture, et l'agriculture, c'est la relation sociale, comment on gère ou non les réserves. Donc des différences environnementales très importantes, des différences culturelles très importantes, des différences qui sont plus récentes, mais avec quand même des profondeurs historiques religieuses, puisque il y a eu l'importation des deux grands monothéismes. L'islam et le christianisme. Le judaïsme n'étant pas prosélyte, il est resté localisé à l'Éthiopie, où vous aviez une communauté là, dite Falasha. Donc des différences culturelles aussi, des différences énormes dont les gens n'ont peut-être pas conscience toujours, dans les rapports sociaux, entre des cultures qui sont très introverties, où on n'exprime pas, puis des cultures plus exubérantes. Les différences se marquent à tous les niveaux.
Est-ce qu'on peut prendre des exemples de pays? Parce que moi en fait, j'en sais rien. Donc, du coup,
moi, je vais prendre un exemple qui peut parler à des Parisiens, notamment. C'est lorsqu'on fait un peu l'historique des migrations. Donc, les migrations de populations venant de ce continent sont anciennes, certes, mais disons, elles prennent une ampleur depuis l'entre-deux-guerres et surtout les années 60-70. Les premiers travailleurs venaient essentiellement d'une partie du Sénégal, du Mali, et notamment des populations appelées Soninké, qui ont été les plus nombreux, et qui étaient du côté de Château Rouge, du métro... du métro Château Rouge, et là aussi en généralisant, parce que faut avoir conscience, et c'est tout à fait normal, qu'à l'intérieur d'une société donnée, vous avez des différences de classe. Il n'y a pas d'égalité, on n'est pas dans l'idéalisme comme ça. Mais disons, globalement, c'est une culture plutôt discrète qui. Si vous allez à Château Rouge maintenant, vous allez être frappé par la place qu'occupent les gens dans le marché de gens et dans ces rues, et en particulier les femmes, très présentes, je vais reprendre le terme d'exubérant. Et en fait, c'est une autre migration. qui vient d'Europe, d'Afrique centrale, qui vient des Congos, des Congos en particulier. Et c'est vraiment tout un autre rapport à la société, un autre rapport de genre.
Hein. J'allais justement vous poser la question sur le rapport des genres, parce qu'effectivement, je pense que d'un pays à l'autre, c'est un rapport qui n'a pas grand-chose à voir, même s'il y a du patriarcat un peu partout, bien sûr. Mais...
Voilà, alors on peut partir de l'idée que le monde a été patriarcal, voilà, quels que soient les domaines. Mais là, c'est une question intéressante que vous posez, parce que les colonisateurs, Britanniques, Allemands, Français, tout le monde, hein, venant d'une société patriarcale qui était en train de changer à la fin du 19e siècle, sont venus avec cette espèce d'idée qu'ils allaient sauver les femmes africaines qu'ils voyaient comme dominées. Il y a souvent, on voit souvent dans les textes anciens l'expression « bête de somme ». Mmh. Parce qu'il est vrai que dans beaucoup de cultures, les femmes sont actives au niveau de l'agriculture, au niveau du portage, enfin jouent un rôle très important. Et donc il y avait cette idée qu'on allait sauver les femmes africaines sans avoir conscience que les hommes qui mettaient en œuvre cette politique étaient eux-mêmes dans un rapport extrêmement machiste, aussi un rapport qui renvoie à cette idéologie à la fois bourgeoise et chrétienne de la femme au foyer, etc. Et en appliquant leur politique, ils ont en fait privé les femmes africaines, selon les cultures, de droits qu'elles avaient ou de place qu'elles avaient dans le pouvoir, dans la religion, en voulant imposer leur propre machisme.
Et pourtant, dans l'imaginaire blanc, ou en tout cas occidental encore aujourd'hui, il y a vraiment cette idée de la femme noire encore un peu sauvageonne qui persiste en fait. C'est ça qui est fou.
Oui, alors c'est pas un stéréotype. Oui, c'est intéressant que vous disiez qu'il est répandu. C'est peut-être pas une idée à laquelle j'aurais pensé en premier, mais pourquoi pas. Mais ça, c'est clair qu'il y a eu une construction de la représentation des femmes africaines et de la sexualité, mais pas que pour les femmes. Hein. Mmh. C'est toujours cette idée de la proximité avec la nature et donc la proximité avec une forme de sexe qui serait plus... plus évidente, plus première, quelque chose de ce genre. Il y a des chercheurs qui ont travaillé sur ça, qui ont fait une analyse que j'avais trouvée intéressante en confrontant les regards sur les femmes en Afrique du Nord et en Afrique au sud du Sahara, en disant qu'en gros, comme les Africaines au sud du Sahara, et là, ils généralisaient de manière éhontée, étaient nues, il fallait d'abord les couvrir par la civilisation, la mission, pour pouvoir les érotiser ensuite. Ah. J'avais trouvé cette approche assez intéressante. C'est-à-dire que c'est une réflexion sur la nudité qui n'est pas érotique en tant que telle.
Voilà. Oui, d'ailleurs, il y a des sociologues qui ont... Enfin, un sociologue en particulier qui s'est intéressé aux femmes au sein nu sur la plage, qui disait qu'en fait, une femme qui fait sein nu sur la plage, par défaut n'est plus érotisé. Et en fait c'est très intéressant comme le regard peut changer entre les seins nus versus les seins couverts en fait.
Mais bon, oui, c'est tout. Ouais. J'ai une anecdote intéressante à ce propos, comme j'ai travaillé sur le cinéma dans différents pays africains, alors pas les films, mais aller au cinéma. Et j'avais fait un entretien avec un Sénégalais de Saint-Louis du Sénégal qui avait vu la Dolce Vita à Saint-Louis du Sénégal. Et bon, la scène de la fontaine de Trévis ne l'avait pas marqué plus que ça. Il vient ensuite, au début des années 60, comme étudiant en France. Il revoit le même film dans le Quartier Latin avec un public français et surtout un public d'hommes. Et il prend conscience de la portée érotique de cette scène. Et il me dit... Ben, moi, alors pas à Saint-Louis du Sénégal où les femmes sont couvertes, mais dans les villages, les paysannes pouvaient encore dans les années 60 être avec le haut dénudé. Les seins nus, ça ne m'évoque rien d'érotique, rien de...
C'est intéressant. Voilà. Donc, il y a ce rapport de genre. Quels sont les autres stéréotypes? Parce qu'en fait, en France, on a une tendance à être un peu universaliste dans notre manière de voir les valeurs. J'ai fait un épisode là sur la Chine où en fait justement on explique à quel point il y a des différences majeures de perception des choses, par exemple de la masculinité ou de l'écologie. Et en fait, nous, on a tendance à être un peu universaliste dans la manière de plaquer nos valeurs. C'est quoi les autres stéréotypes qu'on peut avoir en France sur l'Afrique?
Je dirais déjà, il me semble que la majorité des Français n'ont même pas conscience ou n'ont même pas d'informations sur l'Afrique anciennement lusophone, anglophone. Mmh. C'est-à-dire, quand ils disent Afrique, les représentations qu'ils ont sont aussi extrêmement limitées. Alors, il y a une représentation qui me semble importante, c'est la ruralité. Et c'est lié à une autre représentation, l'Afrique comme étant le continent des girafes, des éléphants, etc. Alors que la majorité des gens qui habitent en Afrique n'ont jamais vu un animal de ce type de près ou de loin. Et ça, c'est vraiment des images qui sont entretenues par les agences touristiques qui organisent ce genre de voyage. Donc la ruralité... qui est du côté de l'archaïsme, en fait. Les paysans, et là, c'est des stéréotypes qu'on a en Occident aussi, les paysans sont vus plutôt du côté du passé, enfin bon. Et donc, en mettant l'accent sur la ruralité, on oublie que maintenant, il y a à peu près 50% d'urbains en Afrique. Dans certains pays, c'est beaucoup, beaucoup plus, comme le Gabon, ce qui peut étonner, ou l'Afrique du Sud. Dans d'autres pays, c'est moins, bien sûr. Mais on oublie toute cette vitalité, alors qui serait du côté d'une modernité à l'occidentale, qui caractérise l'Afrique.
Et en même temps, une autre chose, parce que vous parlez de ruralité, il y a énormément de modernité en Afrique. Il y a un certain nombre de pays... où il se passe énormément de choses. Je pense à la blockchain, je pense aussi au modèle de fonctionnement des sociétés qu'on regarde maintenant, enfin en tout cas qu'un certain nombre de chercheurs regardent pour se dire peut-être que c'est là l'avenir. Et en fait, c'est pas du tout, je crois en tout cas, une image que les personnes peuvent avoir quand ils pensent au continent africain.
Oui, absolument. Et on pourrait faire un petit détour par l'épidémie ou la pandémie actuelle, puisque divers pays africains ont connu Ebola. Et justement, il y a des chercheurs travaillant sur l'Afrique disant que, les Occidentaux sont venus soigner Ebola sans prendre en compte les pratiques locales, et qu'en fait, ils ont bien été obligés d'en intégrer, et qu'on aurait eu intérêt à exploiter ce que les gens avaient mis en place pour lutter contre Ebola, et notamment des formes de solidarité, des formes de gestion collective pour gérer le Covid. Ça n'a pas été fait parce qu'effectivement, comme vous le dites, l'Occident, l'extérieur, continue à avoir une vision surplombante, une vision de... On a des leçons à donner et pas des éléments à tirer de l'Afrique. Alors, il y a peut-être un autre élément...